Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Bonjour à toutes et tous. C'est Aura des pâquerettes, l'émission d'Aura FM, Fédération des radios associatives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En ce mois de mars, c'est Radio BLV qui vous propose de regarder pousser les pâquerettes. Radio BLV comme Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, ville urbaine mitoyenne de Valence qui se love le long du Rhône et grimpe sur les hauteurs pour dérouler ses champs et vergers. Le territoire sur lequel nous émettons est composite avec une majeure partie rurale. En ce mois de mars, qui devrait être synonyme de giboulée et réveil de la végétation pour un joyeux printemps, nous vous proposons de parler d'arbres, de forêts, de résilience et de partage. Tout ça avec deux invités, un poète humaniste et un scientifique, tous deux basés à Soult, délicieuse petite commune un peu plus au sud de chez nous qui est la porte d'entrée à la forêt du même nom. Place tout de suite à Colin Desforges et Bernard Foréroux. Bonne écoute.
Alors aujourd'hui, on sort de Bourg-lès-Valence vers le sud, Chabeuil, Cré, on traverse les eaux de la Drôme, on continue encore un peu sur la D70 et puis on s'arrête. On s'arrête et on respire profondément, tout en ouvrant grand nos yeux ébahis parce que punaise, qu'est-ce que c'est beau! On va se promener dans ce décor pendant une heure avec Colin. Bonjour Colin.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah plutôt bien.
Est-ce que tu es bien installé?
Je suis bien installé et je suis bien reçu. Très
bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, et décrire pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on voit autour de nous?
Alors normalement, tous les Drômois connaissent très bien. Non, peut-être pas. Alors, on est niché au lieu d'un au cœur d'un lieu qui est assez emblématique, une espèce de grande cuvette, mais ça on en parlera peut-être un petit peu après, une grande bassine qu'on appelle la forêt de Soult et au milieu, au centre, tout au fond, il y a un bâtiment qui, alors on l'appelle souvent le petit Trianon. Hein, oh. Ou le Trianon de la forêt de Soult, parce que tout simplement, son architecture rappelle un peu le château de Versailles, tout
le
simplement.
Le Trianon de Marie-Antoinette.
Voilà. Exactement, il y a de ça, et c'est vrai que la personne qui en est à l'origine, qui est à l'origine du projet, et l'architecte auquel il a fait appel, se sont vraisemblablement inspirés du petit et du grand Trianon pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, alors là, il y a une pièce qui est assez emblématique de cette auberge, qui s'appelle le Salon Doré, qui est tout en stuc, en dorure et en décor fastueux, et qui pourrait évoquer, qui rappelle un petit peu la Galerie des Glaces.
Waouh, donc c'est pas n'importe quelle auberge.
Donc c'est pas n'importe quelle auberge, effectivement. C'est un bâtiment qui a été construit sur la volonté d'un seul homme, qui s'appelait Maurice Burrus et qui avait racheté la forêt de Soult dans les années 20. Au départ, pour sa satisfaction personnelle, hein, puisque son projet, on le sait, au départ, c'était plutôt d'en faire une chasse privée, un terrain de chasse pour lui. C'était un très riche industriel. Sa famille avait fait fortune dans l'industrie du tabac. Il avait donc d'énormes moyens et c'était une petite folie.
Il s'est fait son petit Versailles.
Exactement. Et puis, alors c'est là où l'histoire devient amusante, intéressante. C'est qu'arrivé en forêt de Soult, alors en tout cas, j'aime bien le raconter comme ça. Hein. C'est qu'arrivé en forêt de Soult, il tombe amoureux du lieu. Il tombe amoureux de cet espace de nature extraordinaire et il abandonne son projet de domaine de chasse pour aller vers un projet qui, alors aujourd'hui, on le voit comme un des premiers projets de tourisme vert, en Drôme c'est sûr, et peut-être même en France. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui vient du Nord-Est, qui est peut-être un petit peu influencé par la tendance dans ces pays-là où on a une mode de... du retour à la nature, avec un aspect peut-être un petit peu romantique. Et donc, il voit la forêt de Soult comme un lieu que les gens doivent découvrir et qui doit accueillir des visiteurs.
On est à quelle époque, là, à peu près?
Alors là, on est au milieu des années 20.
Je me demandais, dans toute cette histoire de ce grand bâtiment, où es-tu, toi? Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette auberge ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Ah, faut que je raconte ma vie, là ?
Bah, pas trop longuement non plus, mais dans bon, les choses peut-être qui t'importent et qui expliquent pourquoi tu te retrouves à cet endroit.
Très, très vite. Alors, j'ai une formation en environnement, évidemment.
Pourquoi est-ce que tu as voulu faire cette formation en environnement ?
Oh là 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 ! Comme tout le monde qui a fait ça, je pense. Depuis tout petit, j'étais passionné par la nature.
Ah là là, toi voilà, aussi.
Évidemment. Et donc, du coup, je suis parti dans une formation assez, alors, un parcours assez classique, un BTS en gestion et protection de la nature. Maîtrise en environnement. Et après, je suis rentré dans le monde du travail en étant d'abord enseignant.
Ah, voilà.
Pendant assez longtemps, j'ai été prof. Quoi,
un compteur.
Voilà. Et puis un jour, j'ai eu envie de changer d'horizon et j'ai eu une opportunité pour rentrer.
Tu vas beaucoup trop vite, là, Colin.
Pourquoi ?
Ben, prof de quoi ?
Ah, prof de quoi ? Prof de naturalisme, génie écologique.
Ah, c'est dans quelle formation qu'on fait
pour
ça ?
Pour des BTS en gestion et protection de la nature.
Ah, génial.
Et ouais.
Et tu enseignais quoi, par exemple ?
Eh ben, les petites bêtes, les petites plantes. C'est pas mal, hein, comme boulot.
Génial.
Plus, bien sûr, l'écologie, puisque l'écologie est une science, comme tout le monde le sait. Et puis du génie écologique, donc tout ce qui est technique de suivi, de gestion, de restauration des milieux, etc.
Et t'as fait ça où ?
Pas très loin d'ici, à Bourg-de-Péage, dans une maison familiale rurale, la maison familiale rurale de Mondy.
Wow.
Voilà, j'ai fait ça pendant presque 16 ans.
Wow,
dis donc, c'est... 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces 16 ans ?
Bah, j'ai grandi. Non, c'était l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs et puis une opportunité pour rentrer au département, au service espace naturel sensible, enfin qui s'appelait à l'époque service espace naturel sensible, qui s'appelle aujourd'hui service sport nature.
Ah oui, ça veut tout dire, ça change complètement la symbolique.
Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est sport, environnement, sport nature, parce que les sports de nature et tout ce qui est volet nature a été fusionné, si on peut dire, ce qui paraît logique, hein, puisque voilà, il y a quand même
plusieurs usages du même lieu.
Un lien qui est évident. Voilà. Donc du coup, j'ai intégré le département au départ comme éco-garde. Voilà, sur les...
Tu devais faire quoi en tant qu'éco-garde ?
Eh ben, j'ose pas trop le dire, mais je me promenais. Non. Non, les éco-gardes, alors oui, une bonne partie de la mission, c'est la surveillance des espaces naturels sensibles. À la fois pour, alors quand on dit surveillance, c'est à la fois pour surveiller éventuellement le respect de la réglementation, puisque les espaces naturels sensibles sont ou peuvent être des espaces réglementés, sur lesquels il y a des règles à respecter, ça paraît normal. La surveillance, c'est aussi la surveillance de la faune et de la flore. Donc, il y a des suivis naturalistes.
Les inventaires.
Et puis, exactement. Et puis, c'est aussi, bien sûr, tout ce qui est le contact avec le public, les renseignements qui peuvent aller de qu'est-ce que c'est que cette plante jusqu'à est-ce qu'on peut dormir dans les refuges ou pas, et comment on peut venir, et on a le droit de faire du vélo ou pas, tout ça. Voilà.
Il y avait beaucoup de comportements où tu as dû intervenir ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors là, je vous fais part de mon ressenti propre, hein, ça n'engage que moi, mais sur la grande quantité de personnes qui viennent sur des espaces de nature. Alors, un phénomène qui, ça c'est vrai, moi, j'ai quand même constaté, s'est renforcé suite à la crise Covid. Voilà, il y a vraiment eu un... Alors, c'est une tendance de fond, mais il y a vraiment eu un effet un petit peu déconfinement où les gens ont eu envie de revenir, de réinvestir les espaces naturels. Donc, on a quand même... pas mal de gens aujourd'hui qui se promènent sur les ENS, et la proportion de gens qui auraient des comportements, je ne sais pas comment les qualifier, mais irrespectueux ou inadaptés, elle est finalement très faible. Voilà. Et en général, alors si y a les petits points qui reviennent les plus fréquemment, c'est par exemple les gens qui ne veulent pas tenir leur chien en laisse parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de tenir leur chien en laisse. Voilà, donc il faut expliquer. Hein, voilà, il y a des raisons par rapport au dérangement de la faune, par rapport à la cohabitation avec les autres usagers, etc. Et ça se passe en général très bien. Voilà.
Donc
c'est plutôt positif au final.
Éco-garde sur quel lieu ? C'était déjà à Forêt-Dessous ou c'était
Alors, quand on est éco-garde, on tourne sur les différents ENS.
Ah, génial.
Alors, les ENS où il y a le plus de besoins de surveillance. En gros, ça se résume à trois ENS qui sont connus, je pense, de la plupart de nos auditeurs. C'est la Forêt-Dessous, bien sûr, le plateau d'Ambelle, le bateau de Fondurle.
Voilà. Ah.
Alors après, il y a aussi un petit peu de présence sur le Marais des Bouligons ou la montagne du Sapet, par exemple. Voilà.
Donc tes journées, c'était être sur le terrain ou...
Alors oui, alors...
Ce que j'imagine là, dans mon
là,
rêve.
J'ai fait un portrait un peu carte postale, c'est un peu... pas que ça quand même, hein, y a quand même aussi des comptes rendus à produire, bien sûr, un peu de charges administratives, etc. Mais voilà, oui, c'est un métier de terrain, beaucoup. Voilà.
En pensant à EcoGuard, je me demande s'il y a du braconnage sur ces terrains-là.
Honnêtement, non. Alors après, en tant qu'EcoGuard, c'est pas forcément, nous, on n'est pas forcément sur ces missions-là.
Ouais.
Là, il faut plutôt l'OFB, c'est-à-dire la police de l'environnement, les vrais policiers de l'environnement. Voilà, nous, on reste sur des missions de police qui sont très légères.
D'accord. Voilà. C'est pas vous qui intervenez là-dessus.
Non. Non, non.
Est-ce que tu as grandi le nez dans l'herbe ou est-ce que tu as... C'était où que tu as grandi pour avoir une idée?
Alors, c'est compliqué. au départ, je suis né en Seine-et-Marne,
okay.
À Fontainebleau, donc dans la forêt de Fontainebleau, donc j'étais un peu dans la nature. Mais après, j'ai grandi dans l'Aveyron.
Ah.
Ouais, donc j'étais bien, bien paumé, mais avec un lien particulier avec la Drôme déjà, puisque ma grand-mère a une maison dans le sud de Drôme, dans les Baronnies. Et donc, j'y viens, je pense que depuis que je suis né, j'ai passé à peu près tous mes étés dans la Drôme. Voilà.
Oui, donc ton cœur y est.
Voilà, une partie de mon enfance est là, quoi. Voilà.
Et ensuite, bah, tu n'es pas resté EcoGuard alors ?
Eh ben non, parce que du temps que j'étais EcoGuard, le projet d'auberge des dauphins commençait à se concrétiser, voilà, puisque après une longue gestation, réflexion, les travaux ont commencé en 2019. Donc moi, ça correspondait à peu près au moment où je suis arrivé EcoGuard. Et quand l'ouverture s'est rapprochée, à un moment donné, on m'a dit, il va y avoir besoin d'un médiateur scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable d'accueillir les gens, de leur expliquer des choses sur la faune et la flore, et puis aussi de vérifier, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, d'être un peu la caution scientifique de l'auberge, ça fait très pompeux, mais c'est comme ça, d'être un peu la caution scientifique de tout le contenu qui va pouvoir être apporté, alors à la fois dans les espaces d'exposition, c'est-à-dire dans tous les dispositifs, les panneaux, etc., mais aussi dans ce qu'on va pouvoir raconter, le message qu'on va pouvoir faire passer aux gens, puisque l'objectif de l'auberge, c'est à la fois d'accueillir du public dans l'auberge, dans la maison de site, mais aussi d'emmener les gens à la découverte des espaces extérieurs, de la nature qu'il y a autour de l'auberge, et peut-être un peu plus loin aussi. Quoi.
Et de leur faire comprendre la richesse particulière de cet endroit, de cette
et de
forêt.
Et de leur faire comprendre. En fait, la forêt de Soue et l'auberge des dauphins, c'est un outil extraordinaire pour sensibiliser à l'environnement et puis pour ouvrir un peu les consciences sur la nécessité de... Mmh. Alors, d'abord de s'émerveiller, de regarder, et puis après de protéger, bien sûr.
Parce que ce n'est pas une forêt comme les autres, la forêt
alors,
de
Soue. Alors, ce n'est pas vraiment une forêt comme les autres. En général, la forêt de Soue, le premier contact qu'on a avec, c'est plutôt sur le plan paysager qu'on est émerveillé. On se dit, mais qu'est-ce que ce truc? C'est une espèce d'énorme enceinte de falaise. L'entrée se fait, en tout cas en voiture, il y a seulement deux accès. Il y a le Pertu et puis le Pas de Lauzin. Donc, il y a un côté un peu château.
C'est vrai, une forteresse.
Exactement. Et puis, c'est quand même assez particulier, là, cette longue gouttière de presque 13 km de long sur 2 à 3 de large. Donc voilà, premier effet, c'est un peu c'est sur le plan paysager, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est extraordinaire, etc. Quand on creuse un petit peu après, on se rend compte que c'est aussi un espace de... Alors, thème un peu surfait, mais c'est un espace de biodiversité extraordinaire, puisqu'on a en forêt de Soue une diversité de conditions et donc de milieux qui est assez extraordinaire. Quand on rentre au niveau de la forêt de Soue, au Pertu, on est à moins de 400 mètres d'altitude, alors que le point culminant de la forêt de Soue, qui est très connu, parce que beaucoup de gens font l'ascension du Veillou, et le Veillou est à 1589 mètres. Donc on a 1200 mètres d'amplitude altitudinale sur une petite distance. Voilà. Le fait qu'on soit aussi dans une cuvette qui est orientée est-ouest, on a un adret et un ubac, c'est-à-dire un versant qui est exposé au soleil et un autre qui est plutôt à l'ombre, qui sont bien marqués et qui sont très contrastés. Donc on a une très grande différence entre le versant exposé, qui est évidemment chaud, sec, et sur lequel on va trouver une végétation qui est adaptée. Donc on est plutôt dans de la chênaie pubescente, des garrigues, des pelouses. Et puis le versant qui est à l'ombre, où on est sur quelque chose qui est beaucoup plus humide, beaucoup plus frais, et on va trouver une forêt qui s'apparente à de la forêt de montagne. Donc c'est de la hêtraie. De la hêtraie avec du sapin, de la hêtraie sapinière. Voilà. Et ce contraste, alors, en plus, on imagine des endroits qui sont plus humides que d'autres, des endroits qui sont un peu plus calcaires, mais d'autres qui sont un petit peu plus sableux, siliceux. Donc cette diversité de milieux fait qu'on a une richesse, c'est-à-dire un nombre d'espèces qui est assez exceptionnel.
Est-ce qu'il y a aussi un côté nord-sud par rapport à la France, parce que la ligne un peu entre les espèces du nord et du sud se situerait un peu dans le
alors
coin?
Alors ça, c'est une très bonne question. On voit quelqu'un qui est... Ouais. Alors, il y a un petit peu de ça. En fait, la forêt de Sous se situe un petit peu au milieu du département de la Drôme. Donc, on est dès qu'on passe au sud, on est déjà dans l'influence un petit peu méditerranéenne. Mmh. Hein, on passe dans la Drôme dite provençale. Mais on est quand même assez proche du Vercors, avec une influence montagnarde qui se fait sentir. Et on n'est pas loin non plus de la vallée du Rhône, donc des influences un petit peu plus continentales. Voilà. Donc, on est à un carrefour climatique aussi. Voilà, qui fait que, au final, on a. Alors, je vais vous assommer un peu avec des chiffres, mais.
Allons-y.
Quand même, un peu de pub. On a. Alors, je vais parler plutôt de la flore, parce que c'est plus ma sensibilité et c'est ce que je connais mieux. Mais on a plus du tiers de la flore de la Drôme qui est concentrée en forêt de Sous. C'est-à-dire, vous avez le tiers de la flore de la Drôme, sur 0,4% de la superficie du territoire. Ouais. C'est un truc exceptionnel, c'est incroyable.
Il y a un peu de tout dans la forêt de Sous.
Il y a un peu de tout, et il y a des trucs qu'on ne retrouve qu'en forêt de Sous. En Drôme, il y a des plantes, par exemple, dont les... Alors, on appelle ça des stations, c'est-à-dire il y a une localisation, il y a un endroit où on trouve cette plante-là, et il n'y en a pas ailleurs dans la Drôme.
Comme laquelle?
Il y a un petit carex, par exemple, qui s'appelle le carex des Popérata. Les stations qui sont en forêt de Sous sont les seules qu'on connaisse en Drôme, a priori. Voilà. En cherchant peut-être qu'on en trouverait une ou deux au sud, mais bon, je fais un peu
du
chauvinisme. Hein, voilà. Et puis il y a une autre petite orchidée, une petite épipactis, Epipactis exilis, pareil, qui est a priori, là il faudrait vérifier, mais pour l'instant, les stations connues, c'est les seules qu'on connaît sans drôme, c'est dans la forêt de Sous.
Allez, voilà. Colin, est-ce que tu pourrais fermer les yeux et t'imaginer dans un des endroits de cette forêt de Sous et puis nous le décrire?
C'est facile ça. Alors, pour moi, c'est très personnel, mais l'endroit le plus magique de la forêt de Sous, c'est la Grande Combe. Donc on imagine, alors il faut passer, quand on arrive dans la forêt de Sous, on remonte la route jusqu'à arriver au bout de cette route, là, on laisse la voiture, et puis on part à pied, on passe devant l'auberge des dauphins, et on continue tout droit, pour aller tout au bout du synclinal, et on arrive dans une espèce de canyon, et alors là on change complètement d'univers. Il faut imaginer qu'on est, donc il y a les falaises qui nous entourent, il y a une sorte un peu d'obscurité, il y a de l'humidité, des grands arbres, sur ces grands arbres il y a des mousses qui pendent. On a l'impression, alors beaucoup de gens disent, ça leur évoque un peu une forêt tropicale ou une forêt un peu mystérieuse. Moi qui suis un grand fan de l'univers de Tolkien, je trouve qu'il y a un côté un peu, on a l'impression qu'il y a les hobbits qui vont sortir, quoi. C'est un peu extraordinaire, voilà. Ça c'est un endroit un petit peu magique.
Et qu'est-ce qu'on entend dans cet endroit?
Alors qu'est-ce qu'on entend? Déjà on entend le silence, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Et puis on peut entendre des oiseaux, bien sûr. Alors il y a un oiseau qui est assez caractéristique, mais qui est un petit peu bruyant aussi parce qu'il est pas mal bavard et qui est assez caractéristique en forêt de Sous, c'est le pic noir. Voilà. Donc on peut l'entendre tambouriner ou crier ou voilà. Et puis de temps en temps aussi, alors notamment en ce moment, on peut entendre le bruit de l'eau qui dégouline sur les parois. Ou le bruit de nos pas dans la neige. Voilà. C'est apaisant, c'est plutôt pas mal.
Et alors, je continue sans cette immersion, on sent quelles odeurs?
Ah, une odeur d'humus. Ah, une odeur d'humus. Une odeur de forêt. Hein, c'est... Alors, il y a des théories hein, sur les forêts, et tout ce qu'elles nous apportent comme bienfait. L'odeur et tout ce qu'elle peut transporter comme élément pourrait en faire partie, voilà, mais c'est cette odeur d'humus un peu frais comme ça, c'est agréable.
Et ça te fait ressentir quoi, toi, quand tu es dans cette forêt? Tu te sens comment?
Calme, voilà, plutôt calme et apaisé. Moi, j'y passe pas mal de temps, mais parce que j'aime beaucoup la forêt de Sous, et ça faisait partie aussi d'un projet, d'une volonté, d'avoir l'opportunité de travailler, de venir tous les jours quasiment en forêt de Sous, c'est quand même un privilège.
C'est clair. On te jalouse un peu autour de la table.
Vous êtes invité, tout le monde peut venir en forêt de Sous.
On fera un groupe radio BLV.
Voilà.
Et je me demandais, est-ce que tu as des inquiétudes quant à cette forêt ?
Alors, la principale inquiétude, alors je ne suis pas forcément moi qui l'a fait émerger, hein, mais c'est évidemment le dérèglement climatique hein, qui commence à qui
peut
poser quelques questions. Alors ça se ressent. Moi, j'ai une position très personnelle qui est assez différente peut-être ou qui risque d'en choquer certains, mais je serais peut-être un peu moins catégorique ou inquiet sur, l'idée de dire « Oh là là, tout va disparaître, c'est la catastrophe, la forêt va disparaître. Les arbres ? En fait, quand vous prenez une espèce d'arbre, par exemple, alors le hêtre, par exemple, bien connu, au sein du hêtre, on a quand même une diversité au sein des individus, une diversité génétique, une diversité de caractéristiques qui fait que moi, je ne suis pas complètement inquiet sur l'avenir du hêtre dans des endroits comme la forêt de Soue. Par contre, il y a certainement des jours à venir qui seront pas réjouissant, voilà. Ça peut-être, voilà, on le voit déjà, nous, il y a des arbres qui commencent à développer des phénomènes de ce qu'on appelle de microphilie, c'est-à-dire des feuilles qui se réduisent, des arbres qui sont fragilisés. Et puis surtout, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est l'action combinée, c'est-à-dire que des arbres qui sont fragilisés par des épisodes de sécheresse, par exemple, vont être plus sensibles à certaines maladies, des champignons ou des insectes. Voilà.
Donc il y a déjà des différences que tu as notées, toi, depuis ton temps dans cette
forêt. Je vais rester modeste. je suis pas suffisamment depuis suffisamment longtemps dans la forêt et sur cette terre pour le lire, pour le voir. Et puis il faut quand même garder en tête que contrairement à une idée reçue, là aussi je vais casser un peu le mythe, mais la forêt de Soue, comme beaucoup de forêts, en fait c'est pas une si vieille forêt que ça.
Elle a été
en partie planter ou replanter. Alors attention, le plus souvent, en fait, on ne replante pas forcément la forêt, on laisse simplement repousser les arbres. Mmh. Déjà, il y a ça. Mais la forêt de Soue, comme énormément d'espaces forestiers en Drôme et ailleurs, elle a été exploitée pendant assez longtemps. Et puis, c'est notamment Maurice Burrus, quand il est arrivé et qu'il a arraché la forêt de Soue, une des actions qu'il a faites, c'est qu'il a considérablement réduit, voire interdit, la coupe de bois, et puis il a replanté. Il a fait des replantations, et puis il a laissé la forêt repousser. Mais Maurice Burrus, comme je disais tout à l'heure, c'était 1924, ça veut dire que la plupart des arbres qui sont aujourd'hui en forêt Soue, devant lesquels les gens s'extasient, c'est des arbres qui ont une petite centaine d'années, hein, pas plus. Voilà. Alors, il y en a des plus vieux, je vous rassure, mais les plus vieux arbres de la forêt Soue, il faut aller les chercher, pas là où on pense, il faut aller les chercher dans les falaises. Voilà. Ah. Il y a des genévriers là, qui poussent dans les falaises dans des conditions absolument extraordinaires, des genévriers de Phénicie, dont certains sont certainement, alors là aussi je veux m'avancer, mais
allons-y.
Ils sont plus que millénaires.
Ah oui.
Oui.
Ah, ça donne envie d'aller se promener dans les falaises.
Oui. Avec prudence, hein.
Oui, on va faire attention. Est-ce que l'eau risque d'être un problème ?
Ah, alors, ça c'est une autre question qui est... La réponse est difficile. La forêt de Soue a la particularité d'avoir un cours d'eau, la Vèbre, qui est sur une bonne partie de son cours, en tout cas de son cours dans la forêt de Soue, qui est intermittent. Voilà, donc il y a une circulation de l'eau qui est assez complexe, qu'on ne connaît pas très bien, pour être honnête. Mais la Vèbre, elle devient permanente quand elle sort de la forêt. Et après, elle traverse le Viège de Soue, elle rejoint le Roubion. Et même cet été où on a quand même eu des conditions de sécheresse assez, assez importantes, la Vèbre, elle a baissé, mais elle ne s'est jamais tarie non plus. Donc, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir ? Certainement quand même, la ressource en eau, ça c'est une inquiétude qui est un petit peu généralisée, hein. C'est certainement un des défis pour les années à venir, mais dire là aujourd'hui qu'en forêt de Soue on a des indicateurs très inquiétants, moi je suis incapable de le dire.
En t'entendant, ça donne l'impression, pour cet espace naturel sensible, d'une certaine résilience.
Il y a un petit peu de ça. Ouais, il y a un petit peu de ça. La forêt de Soue, elle est assez atypique, elle est assez exceptionnelle. Le terme est, voilà, mais sur plein d'aspects. Mais il y a notamment ça. Et puis surtout, moi, je trouve qu'elle nous enseigne aussi un peu l'humilité. C'est-à-dire que quand on arrive avec des idées préconçues, on croit savoir. On sait comment ça marche. On va dire non, mais attendez, c'est sûr qu'il y a tel truc, ça marche comme ça, machin, mais il est chouette. En fait, en forêt de Soue, ça se vérifie pas tout le temps. Voilà. Donc moi, je reste toujours très prudent et pour l'instant, quand je ne sais pas trop, je dis voilà.
Je ne sais pas trop.
On verra.
Et je me demandais, tu dois du coup parler avec beaucoup de monde, j'imagine, quand vous êtes ouvert, en tout cas l'auberge, auprès du grand public. Quelles sont un peu les questions, les remarques qui te reviennent le plus souvent de la part du public ?
Ah, bonne question. Alors, on me demande souvent quels animaux il y a. Voilà, les gens.
La liste.
Voilà, la liste, avec quelques espèces phares qui reviennent tout le temps. Voilà.
Comme quoi, par exemple?
Bah, le loup, par exemple. Il y a du loup. Est-ce qu'il y a du loup? Voilà, tout le temps. Et puis après, alors il y a une question qui revient souvent. Ça, c'est les gens qui sont un petit peu baladés dans la forêt dessous. On voit dans les espaces de prairies, on voit souvent des espèces de grands ronds verts. Voilà. Alors verts ou plus jaunes, suivant à quelle époque de l'année on se situe. C'est ce qu'on appelle les rondes sorcières. Voilà. Voilà. Et ça, ça fait partie des questions qui reviennent très souvent en discussion, mais qu'est-ce que c'est que ces ronds dans la végétation? Voilà. Et en fait, c'est dû à la présence d'un champignon. Alors, quand on le raconte comme ça, c'est beaucoup moins...
magique. Bon,
mais c'est voilà. Les Anglais ont un terme un peu plus poétique pour le décrire, ils appellent ça les fairy rings, c'est-à-dire les ronds de fées. Et voilà, il y a beaucoup de symboliques et de légendes autour de ces ronds où on pensait que c'était alors, le lieu où des sorcières ou des fées venaient, etc. Plus trivialement, il y a des gens qui pensent, avec plaisanterie bien sûr, que ça pourrait être un lieu où des aliens, une soucoupe volante a atterri, tout ça. Non, en fait, voilà, la réalité, alors, elle est tout aussi intéressante à mon avis, mais peut-être un petit peu moins fantastique, mais c'est la présence d'un champignon, puisque contrairement à une idée reçue, en fait, quand on pense champignon, ce qu'on appelle souvent le champignon, c'est simplement l'organe reproducteur du champignon. L'essentiel du champignon, c'est un filament qui est dans le sol et qui est invisible, ou quasiment invisible à l'œil nu.
Sous la terre. Voilà. Ah. Ouais. C'est un lieu de légende, alors, la forêt dessous?
Ah, aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires. Alors, certaines qui sont récentes, d'autres qui sont plus anciennes, certaines qui sont... qui ont peut-être un fond de vérité, d'autres qui en ont beaucoup moins. J'en cite juste une comme ça au passage, mais puisqu'on parlait de la vèbre, la vèbre a la réputation d'être une eau miraculeuse. On a longtemps pensé qu'elle avait le pouvoir de guérir, et notamment de guérir les paralysés. Voilà. Et ça semble venir d'il y a, alors, il y a très longtemps de ça, un paralytique des récollets, un roman qu'on aurait emmené en forêt dessous, qu'on aurait trempé dans l'eau et qui aurait retrouvé l'usage de, alors je ne sais plus si c'est ses jambes ou je ne sais quoi. Et depuis, on pensait que l'eau était miraculeuse. Et il y a eu, pendant quelques temps, une pratique, les mères du village de Sous venaient tremper leur enfant dans la vèbre pour lui donner santé et vigueur. Voilà. Vu la température de l'eau, on peut imaginer que si l'enfant survivait, effectivement, il est coriace. Ça, c'est une autre histoire.
Il est vigoureux. Merci beaucoup, Colin. On arrive à la fin de cette discussion. Peut-être qu'on peut rappeler un peu des infos sur l'auberge pour les personnes qui aimeraient s'y rendre. N'y allez pas en ce moment.
Alors, la forêt de Sous est accessible toute l'année. Donc, vous pouvez venir vous promener en forêt de Sous. Mais si vous vous précipitez pour venir visiter l'auberge, vous allez être un petit peu déçus. On est pour l'instant fermé parce qu'il y a évidemment un fonctionnement qui est saisonnier.
Pour l'hiver.
Et l'auberge rouvrira ses portes le 8 avril. Donc, à partir du 8 avril, on rouvre les portes des expositions. Donc, il y a toute une partie en rez-de-chaussée qui est d'accès libre et gratuit. Et après, vous avez un espace d'exposition à l'étage, 400 mètres carrés d'exposition qui sont évidemment super intéressantes, puisqu'on a travaillé dessus, notamment moi. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Et dont l'accès, alors là, je fais un petit peu de promo, mais en plein tarif, c'est 5 euros par personne. Après, il y a des tarifs réduits pour les enfants, les moins de 6 ans ne payent pas, il y a des tarifs famille. Donc voilà, c'est franchement, ça vaut le coup.
Et comment on peut venir te voir, toi?
Eh bien, il faut crier très fort quand vous arrivez. Non, moi, je suis souvent... Alors, quand l'auberge est ouverte, je suis souvent dans l'auberge ou autour. Et puis après, on propose en parallèle de... Comme je disais tout à l'heure, en parallèle de l'accueil dans l'auberge, on propose tout un tas d'activités que vous pouvez retrouver sur le site de l'aubergedesdauphins.fr. Tout un tas d'activités, des balades dans la nature, des ateliers. On va bien sûr participer aux fêtes de la nature, là, le dernier week-end de mai. On va participer aux fêtes de la science. Donc, on est en train de préparer des programmes qui seront, je pense, assez intéressants et plutôt alléchants. Une partie de ces manifestations, moi je suis souvent là aussi, donc voilà, c'est l'occasion de se croiser.
Donc allez voir sur le site et puis attendez sagement le mois d'avril pour vous jeter à l'auberge.
Tout à fait.
Puis d'ici là, il y a de quoi se promener dans la forêt.
Il y a de quoi se promener et on peut déjà nous croiser, des éco-gardes, on est là pour renseigner s'il faut.
Merci beaucoup, Colin.
Avec plaisir.
Aura des pâquerettes. Will you search through the lonely earth for me? Climb through the briar and bramble. I'll be your treasure. I felt the touch of the kings and the breath of the wind. I knew the call of all the songbirds. They sang all the wrong words.
I'm waiting for you. I'm waiting for you.
Un tracteur, des arbres, un piolet, des livres, une paire de chaussures de marche, des cartes postales de la fondue suisse, un ordinateur, des histoires, des lignes de chiffres, une caméra, des courbes de niveau, un grand phoque, des pierres et du mortier, des BD, un drapeau pirate et une forêt. Voilà ce qu'on peut trouver dans les bagages de mon invité du jour et bien plus encore. Vous le comprendrez, c'est un boulimique. Aujourd'hui, c'est en qualité d'homme de lettres, passionné connaisseur de la forêt de Soue et amoureux des arbres que j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Forêt-Roux. Bonjour Bernard.
Bonjour Sylvie.
Marc-André Sélos est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et des Universités de Gdansk et Kunming en Chine, en Pologne et Chine. Et il a écrit un article passionnant édifiant qu'on peut trouver dans le portfolio Arbres de Reporters sans frontières. L'article débute ainsi. Il en va de l'arbre comme de tous les êtres vivants. Aucun n'est indépendant, mais tous sont construits par des relations multiples avec d'autres organismes qui les entourent et les façonnent. Et il se termine par « En une leçon discrète, l'arbre nous rappelle que même grand ou superbe, on a toujours besoin de plus petit que soi et qu'on ne construit sa vie qu'en interaction avec les autres vies. »
Alors là, le rapport de l'homme à l'arbre, c'est une histoire passionnante, c'est une histoire qui remonte donc à la nuit des temps, puisque s'il n'y avait pas d'arbres, il n'y aurait pas d'animaux, s'il n'y avait pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes, donc il y a une logique dans tout ça, mais le problème c'est qu'on s'est perdu de vue, les arbres et nous, au fur et à mesure des siècles, et on commence à peine à se retrouver, à se reconnaître. On commence à peine. Mais alors si je peux l'expliquer en quatre périodes, il y a une première période pour moi qui a jusqu'au néolithique. Jusqu'au néolithique, l'homme, le végétal, l'animal, même le minéral vivaient en symbiose. On arrivait même à diviniser le minéral, le végétal ou l'animal. On le divinisait ou diabolisait, hein, parce que c'est la même chose. Mais on pouvait avoir un dieu chacal comme les Égyptiens. On pouvait avoir un baobab sacré comme les Africains. On pouvait avoir un volcan sacré comme les Japonais. On vivait en symbiose avec le végétal, l'animal et le minéral. Et puis est arrivée la grande révolution du néolithique, où l'homme est passé de cueilleur-chasseur à éleveur, cultivateur, et il s'est mis dans la tête à ce moment-là qu'il contrôlait la nature, qu'il pouvait avoir les animaux qu'il voulait, les plantes qu'il voulait, etc. Et il s'est mis dans la tête non seulement qu'il la contrôlait, mais qu'il pouvait la hiérarchiser. Et il a inventé ces deux expressions absolument stupides. Toutes les plantes qui servaient à rien, c'était des mauvaises herbes, et tous les animaux qui servaient à rien, c'était des nuisibles. Bon, allez. Donc, et cette omnipotence de l'homme sur le reste de la nature, elle s'est faite de plus en plus prégnante dans sa tête. Et puis il y a eu une troisième révolution, ça a été la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, on a commencé à considérer les végétaux et les animaux comme des matières premières, comme les autres. Comme les autres. On a fait de l'élevage en batterie, on a piqué les animaux aux hormones, on a fait des abattoirs absolument inhumains. Et du côté des végétaux, c'est pareil. On a commencé à déforester, à faire ci, faire ça. On était persuadés, grâce à la révolution industrielle, qu'on n'avait plus besoin du bois parce qu'on avait le plastique, qu'on n'avait plus besoin des chevaux parce qu'on avait les voitures, qu'on n'avait plus besoin du soleil parce qu'on avait l'électricité. On était capable de tout faire. On n'avait plus besoin de la nature. Et puis on était persuadés aussi à cette époque-là que la nature, elle était inépuisable, que de toute façon, Il y avait toujours et toujours, il y aurait toujours. Et deuxièmement, que les atteintes qu'on pouvait lui faire, bah, ça pouvait se réparer, quoi. Elle savait se régénérer toute seule. Et la quatrième révolution, c'est celle qu'on est en train de vivre actuellement, où on se rend compte que non, la nature n'est pas inépuisable. On sait qu'en juillet, on a consommé toutes les ressources naturelles d'une année sur Terre. Non, ce n'est pas irréparable. Ce n'est pas réparable toujours. Il y a effectivement des dégâts qu'on a commis qui sont irréparables et on va le payer très très lourdement. Et puis on se rend compte que non, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Le vivant animal et le vivant végétal sont aussi très importants à comprendre. Et on a complètement négligé ces deux aspects pendant très longtemps. Et on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle l'éthologie, le comportement, l'éthologie animale ou l'éthologie végétale nous enseigne que tous les vivants, qu'ils soient végétaux, animaux ou humains, ont des sentiments, ont des réactions. Il ne faut pas les voir en anthropomorphisme, il ne faut pas essayer de voir chez eux les mêmes réactions et les mêmes raisonnements que nous. Il ne faut pas parler de l'intelligence végétale et tout. Non, ça ne veut rien dire. Ils ont leur façon de parler, leur façon de communiquer.
Une forme d'intelligence.
Une forme d'intelligence, je préfère. Mais voilà, mais c'est des découvertes qu'on fait. Alors, il y a eu des précurseurs qui le disent depuis très très longtemps. Je pense à Thoreau, par exemple, qui depuis très longtemps attire notre attention sur le respect de l'animal ou du végétal. Mais on a encore trop de réfractaires aujourd'hui, de gens qui freinent des cas de fer, de passionnés de corrida ou des Bolsonaro pour les végétaux, etc. On a un gros boulot à faire, mais on commence à le faire. Maintenant, espérons que ça ne soit pas trop tard.
Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que finalement, l'arbre, c'est un exemple d'humilité pour les humains qui en ont si peu ?
Alors, c'est un exemple d'humilité pour de tas de raisons. D'abord parce qu'on a tellement longtemps méprisé les arbres. On était capable de déboiser stupidement.
Et on continue, c'est ce que tu disais.
Et on continue. On
parlait de Bolsonaro, par exemple.
Et en fait, aujourd'hui, quand on commence à s'intéresser à l'éthologie végétale et à la vie des arbres, on s'aperçoit qu'on est totalement ignorant. On dit les arbres tout de suite, pour les auditeurs, il faut dire, ça veut dire les végétaux en général. Oui. Les arbres en particulier, parce qu'ils sont emblématiques, mais les végétaux en général, on est totalement ignorant de toute la richesse, la vie, le potentiel qu'ont les végétaux dans notre environnement. Et on ne se rend pas compte du tout de tout ce qu'on leur doit. C'est bien pour ça, quand je disais tout à l'heure qu'on est en train de commettre des bêtises, j'espère qu'elles ne sont pas irréparables, parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'ont les arbres dans notre vie, et une importance qui n'est pas seulement le fait de ce qu'on vous raconte, le carbone et machin, et ils absorbent, etc. Non, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'ils peuvent apporter aussi au niveau des équilibres végétaux, animaux, etc. Aussi ce qu'ils peuvent apporter au niveau de l'équilibre personnel des humains. On en parlera sûrement, mais la sylvothérapie, il y a un côté spirituel un peu et mystique, etc. Mais il y a un côté très efficient, effectivement. Maintenant, on sait qu'effectivement, il y a des phéronomes, il y a des ions qui passent. On ressent tout ça quand on rentre dans une forêt.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on découvre finalement ce qui devrait être en nous depuis toujours, parce que chacun et chacune a pu constater que allons se promener en forêt, il se passait quelque chose.
Bien sûr, si
on laisse tomber son portable, est vraiment à l'écoute.
Je voudrais te prendre juste deux petits exemples. Il y a des arbres ou des plantes qui font du nectar, d'accord ? Et ces plantes sont butinées par des abeilles. Mmh. Alors, on a pris des plantes à nectar et on a fait venir une abeille artificielle mécanique qui faisait les mêmes vibrations que l'abeille réelle, le même registre de vibrations. La plante, elle n'a pas bougé. On a mis une vraie abeille qui faisait donc la même vibration, mais qui était vraiment un animal. La plante s'est mise à surproduire du nectar pour nourrir l'abeille. C'est-à-dire qu'elle a analysé le son, elle a compris la différence entre un son mécanique et un son animal, et elle a su réagir en approvisionnant l'animal, elle a su adapter son comportement. Deuxième exemple, vous prenez certaines plantes, peut-être arbustes, etc., on les a mis dans un ascenseur. Et puis on a fait descendre l'ascenseur à toute allure. La plante s'est complètement rétractée terrorisée. On lui a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Après, chaque fois qu'on la mettait dans l'ascenseur, elle se rétractait, elle était terrorisée. Dès qu'on la sortait de l'ascenseur, elle se rouvrait. Pendant 28 jours, elle a mémorisé ça. C'était plus la peine de la faire, de lui faire monter ou descendre. On la mettait dans l'ascenseur, elle se rétractait. Mmh. Au bout de 28 jours, j'ai dit, bon, allez, ça s'est calmé, je dois pouvoir revivre normalement. Mais c'est fabuleux comme capacité d'analyse, de perception, de réception. Donc cette perception que les plantes ont de leur environnement, des animaux, ils l'ont aussi vis-à-vis de nous. On sait que bon, les arbres sont capables de réagir à une coupe trop sèche de végétation, à un incendie, etc. Ils ont des moyens de se déplacer. Déjà, on dit souvent que les arbres ont des racines, mais ils ont, à mes yeux, ils ont aussi des pieds. Ils peuvent se déplacer, et fort heureusement. Mais ils ont des sensibilités. Donc, qui dit sensibilité dit sentiment. Mais sans faire de l'anthropomorphisme, encore une fois. Mais il y a une sensibilité qui est exceptionnelle. Et ça, on commence à peine à savoir communiquer avec eux. Si vous aviez mon ami François Sarano, qui est de Valence, le plongeur océanographe, plongeur sous-marin, il vous parlerait des cachalots. On est sur le point de pouvoir communiquer avec les cachalots. Il sait maintenant analyser leur chant, ce qui est la joie, la peur, la faim, l'amour. Ils ont leur langage. C'est pas parce qu'il n'est pas le même que nous que c'est pas un langage. Et ça, c'est un monde qui s'ouvre devant nous et qui nous incite évidemment au respect, parce qu'on n'a pas respecté la nature pendant beaucoup trop longtemps et pourtant on savait qu'il fallait.
Et puis d'autant plus, et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors là si on veut rester très humaniste, c'est que ces études, ces découvertes nous font comprendre un peu mieux aussi comment nous, humains, on fonctionne finalement.
Mais bien sûr.
On voulait avoir justement cette humilité de le reconnaître.
Mais
ça
bien
serait
sûr.
Pas mal.
Quand un arbre est malade, les arbres de la même essence qui sont autour de lui, par les racines, le nourrissent, essayent de le sauver, de l'aider à repartir, à se renourrir. Bon, si on avait la même solidarité entre nous, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas le cas. Nous, quand on voit arriver des migrants, on pousse des hurlements, on essaye de les. Bon, on est bien loin, hein.
On en est un peu loin. Alors, on va revenir un peu sur la Drôme, puisqu'on va rester dans les arbres. Tu es venu avec plusieurs choses, et notamment un livre qui s'intitule « Forêt et arbres de la Drôme », qui est signé Lucien Dupuis, qui est édité par l'Association universitaire d'études drômoises. Alors, quelle est la particularité des arbres de la Drôme ?
Alors, il y en a beaucoup et il n'y en a pas. Lucien a fait un travail absolument remarquable. Il a inventorié toutes les forêts de la Drôme. Alors, il les a inventoriées. C'est pas le genre à rester dans son fauteuil. Hein. Il a fait ça à pied. Il est allé sur le terrain. Il les connaît toutes, ces forêts. Il les a parcourues en long, large, en travers. Donc, il a inventorié toutes les forêts de la Drôme. Il a inventorié aussi tout ce qu'on appelle les arbres remarquables. Ces arbres qui sont exceptionnels, soit par leur taille, soit par leur histoire, soit par leur implantation, qui peut être aussi remarquable. Et puis, il a inventorié aussi tous les rapports qu'on pouvait avoir avec les arbres. Il parle aussi bien du travail de l'ONF, de l'association Arbre, de la sylvothérapie, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une somme. C'est-à-dire que vraiment, là, tout est dedans. Par contre, il y a dans les forêts de la Drôme certaines forêts qui sont peut-être plus intéressante ou plus remarquable que d'autres. C'est le cas de la forêt de Soue dont je m'occupe, parce qu'il y a une diversité, une biodiversité tellement extraordinaire que ça en fait un petit ensemble tout à fait étonnant à étudier. Pour les gens qui ne connaissent pas, la forêt de Soue, c'est que l'image, elle n'est pas de moi, elle date de Louis XV. Hein. C'est un gigantesque bateau entouré de... Les flancs du bateau, c'est des falaises de calcaire qui vont jusqu'à 300 mètres de haut. Et c'est un bateau qui est posé sur la vallée du Rhône avec la proue tournée vers l'Auvergne, l'Ardèche, et puis la poupe tournée vers les Alpes. La proue, c'est Roche-Colombe à 900 mètres. La poupe, c'est les trois becs, le Veillou, le Signal et l'Appel, qui sont environ à 1600 mètres, et le fond de la barque est à 400 mètres. Et dans cette barque, il y a 2500 hectares de forêt. 2500 hectares de forêt qui, du fait du dénivelé et de la situation géographique entre la Provence et le Vercors, on va trouver pratiquement tous les types de végétation qu'on peut trouver en France, hormis les bords de mer et les neiges éternelles. Mais vous avez en bas la vigne, l'eucalyptus, l'olivier, la couleuvre de Montpellier, la bartavelle, et vous montez sur les trois becs, et vous avez le saxifrage, la tulipe des Alpes, la marmotte et le chamois. Non, on a tous les étages de végétation. La deuxième particularité de la forêt de Soue, c'est que dans cet petit espace qui représente 1/260 du département, on a 40% des essences végétales qu'on trouve dans le reste de la Drôme, qui sont représentées. Et comme c'est un espace qui est quand même assez étroit, 2500 hectares, ça a l'air énorme, mais quand c'est mis à plat, mais quand c'est sous forme de bateau, c'est pas immense. Ces biotopes poussent les uns contre les autres. Alors vous allez trouver, par exemple, en haut des Trois Becs, le genévrier de Phénicie, qui est typique du Maroc ou du Liban, qui va pousser à côté de la tulipe des Alpes. Ça ne devrait pas être le cas. Il ne devrait pas être côte à côte. Mais là, c'est la promiscuité des lieux. Et puis, on va trouver même des inversions de végétation. Par exemple, vous allez dans la Grande Combe, qui est une gorge un peu étroite au fond de la forêt de Soue. Vous allez trouver des érables, qui sont des arbres du nord qui devraient pousser en hauteur. Mmh. Et au-dessus d'eux, plus au soleil, vous allez trouver des chênes verts. C'est pas normal non plus, ça devrait être l'inverse. Donc, il y a toutes ces conditions qui font qu'on a une végétation exceptionnelle dans la forêt de Soue. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Dans cette grande combe, justement, à l'abri du vent, au frais et où il y a de l'eau en permanence, nous avons des pins douglas qui font déjà maintenant 54 mètres de haut. Il faut savoir que l'arbre le plus haut de France, c'est un pin douglas qui est à Renaison dans la Loire, qui fait 66 mètres. Et voilà un arbre remarquable qui est déjà à 54 mètres, alors qu'il a à peine un siècle. Il a été planté par le milliardaire Maurice Burrus. Donc, c'est pas si vieux que ça. Mais voilà, il y a toute cette végétation de la forêt qui est vraiment stupéfiante. Alors, c'est sans fin. On pourrait parler de la ripisylve, la forêt les pieds dans l'eau, qui est extraordinaire, qui est un endroit unique. Ça fait on parle souvent pour la forêt de Soue de l'arche de la biodiversité, mais c'est une très bonne définition. Et puis maintenant, on a une maison de site à l'intérieur qui permet de découvrir tout ça d'un point de vue un peu plus pédagogique et plus scientifique.
Oui, qui vulgarise très bien, qui est très bien fait.
Très bel
vraiment,
outil.
Ouais, ouais, c'est un très très bel outil pédagogique et de découverte. Voilà, parce que pédagogique, parfois, ça fait peur. Non, mais n'ayez jamais peur de découvrir.
Ça appartient au département, c'est le service environnement du département.
On parlait de l'Académie Drômoise. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de cette Académie Drômoise? C'est quoi?
Alors, l'Académie Drômoise, son vrai nom, c'est Académie Drômoise des Arts, Sciences et Lettres. Donc, ça rassemble des artistes. Et on a des écrivains, des musiciens, des peintres, etc. Mais dans les artistes, on a aussi des cuisiniers.
Mais les cuisiniers sont des artistes.
Mais tout à fait. C'est pour ça qu'à l'Académie, il y a Michel Chabran, Anne-Sophie Pic, voilà. Mais à côté de ça, vous avez des musiciens comme Jean-François Guay, comme Alain Brunet, qui a quand même deux victoires de la musique en jazz, etc. Vous avez des peintres. On avait Yvon Tardy, qui faisait partie de l'Académie, notre ami Yvon. Mais on a aussi des historiens, beaucoup d'historiens, des écrivains, des scientifiques, des médecins, etc. Et on se réunit à date fixe, 4 fois par an environ, d'abord pour visiter les endroits auxquels on n'aurait pas accès autrement, mais aussi pour échanger entre nous, pour échanger sur nos activités, ce qui se passe dans la Drôme, ce qu'on organise comme salon, manifestation, conférence, etc. Et c'est passionnant, parce que quand vous avez d'un côté de la table François Sarano qui vous parle des cachalots, et puis de l'autre côté le docteur Estour qui vient vous parler de colioscopie, et puis après, moi j'arrive avec mes loups et ma forêt, etc. Et Lucien avec ses arbres, etc. On passe des moments absolument extraordinaires. Et puis de temps en temps, on a des publications, on fait des livres.
Et ce que j'allais dire, les activités extérieures, entre guillemets, vis-à-vis du public.
Alors, en très très court, une grosse activité, il y avait un historien qui s'appelait Brun Durand, qui avait fait un inventaire des personnages célèbres de la Drôme, de l'Antiquité jusqu'à 1920. Et nous, on a repris le flambeau à partir de 1920. On a fait 4 livres déjà, qui sont des portraits des Drômois importants dans toutes les matières, dans tous les domaines scientifiques ou pas. Des Drômois importants. Alors, on va retrouver Haroun Taziev, on va retrouver Georges Bayard, on va retrouver des gens comme ça. Voilà. Et puis, on a une particularité aussi, là, c'est un petit clin d'œil personnel que j'adresse, c'est qu'on est une des rares associations qui a une femme pour présidente, et Annie Frisch. Donc, Annie, je te salue.
On a
une excellente présidente.
Alors, il y a de plus en plus de femmes présidentes, heureusement.
C'est un bien.
C'est bien de le souligner qu'il n'y en a encore pas assez. Alors ça, c'est effectivement l'Académie Drômoise. Et puis, on parlait des arbres, on parlait de la forêt de Soue, puisque tu es vraiment un spécialiste, tu parlais des loups et des arbres, l'association à la découverte de la forêt de Souffle fait partie donc de ces structures qui permettent justement de faire connaître la forêt de la meilleure manière qui soit, parce qu'il faut aussi, la forêt c'est aussi un endroit à protéger, et que le tourisme de masse peut aussi créer certains problèmes, et que donc on fait pas n'importe quoi n'importe comment.
Tout à fait. Alors c'est une association qu'on a créée en 2016 avec deux amies, Martine Guilherme qui est la directrice de l'école primaire du village, et ça nous ouvre tout le monde des enfants, ce que nous adorons, et l'autre personne qui est la présidente de l'association, encore une femme, qui s'appelle Marie-Claude Grèce. Marie-Claude a été maire de Souffle à un moment, elle est la seule femme maire du village, et c'est elle qui a signé le 19 décembre 2003 l'achat de la forêt de Souffle par le département. C'est pas rien.
Oui, parce qu'effectivement ça a été une forêt privée. Alors bon,
voilà, qui appartenait à une compagnie d'assurance.
Alors, on va pas pouvoir faire l'historique, voilà. Mais c'est intéressant de.
Et donc avec Jean Mouton, qui était le père de Marie-Pierre Mouton, la présidente du conseil départemental, Jean Mouton qui était président à l'époque, on a signé l'achat de la forêt de Souffle, et on a à partir de ce moment-là, on a fait partie, Marie-Claude et moi, du comité de gestion de la forêt. Donc on participe à toutes les réunions de travail, la maison de site, on a beaucoup travaillé dessus, l'observatoire photographique du paysage, on a beaucoup travaillé dessus. Et puis quand l'office de tourisme dont on s'occupait à l'époque est devenu intercommunal, nous on a créé cette association pour continuer à travailler avec le département sur la forêt de Souffle, avec trois missions: la communication, la formation et la visite des publics. Donc communication, on a fait Déraciner des ailes, on a fait CO2 Mon Amour, on a fait Le Trésor de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, etc. On a fait un certain nombre comme ça d'événements de communication. La formation, on organise des journées gratuites pour les personnels, les professionnels du tourisme et pour les élus sur la forêt de Souffle, pour qu'ils connaissent l'outil forêt de Souffle avec lequel ils vont travailler. Et puis sur l'accueil des publics, alors on accueille tous les publics, et BLV, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir dans la forêt, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. On accueille mais surtout les publics spécifiques, notamment les enfants, très jeunes, mais aussi on a une journée du handicap, on accueille des personnes handicapées dans la forêt pour leur faire découvrir la forêt dans des conditions privilégiées, et une journée des anciens pour les personnes des EHPAD, leur faire découvrir aussi la forêt de façon plus agréable et un peu privilégiée. Voilà. Donc ça nous fait des missions qui sont très agréables à remplir, beaucoup de boulot, mais c'est passionnant, on adore ça.
Alors je disais tout à l'heure qu'effectivement l'afflux touristique peut avoir quand même, il faut savoir le gérer. Est-ce que ça c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel vous travaillez?
Oui.
Tous et toutes.
C'est un vrai souci au sein du comité de gestion où la commune de Souffle est représentée. On en parle énormément. C'est vrai que alors il y a plusieurs choses. D'abord c'est vrai que la forêt de Souffle, à partir du moment où elle est devenue départementale, elle a attiré de plus en plus de gens. C'est normal, les gens se sentaient un peu dans leur
Bien
forêt.
Sûr.
Elle leur appartenait un peu. On l'a quand même payé 6 millions. Hein. Donc, bon, faut amortir.
Bon. Et puis, donc, ça fait partie de notre patrimoine.
Il y a eu ça, il y a eu aussi la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure sur l'animal, le végétal, etc., etc. Donc, qui ont attiré les gens vers la forêt et qui ont attiré les médias, qui ont démultiplié le phénomène.
Sûr.
Il y a eu aussi le confinement qui a attiré beaucoup de gens vers les espaces naturels, qui a créé énormément de randonneurs à travers la France. Tout ça additionné, on est aujourd'hui à environ 135 000 visiteurs par an dans la forêt, et notamment le sentier qui monte au sommet du Veillou, il est arpenté pendant tout l'été, avec tous les problèmes que ça pose, avec les agriculteurs, les bergers qui sont au sommet des Trois Becs, avec les différents publics.
Oui, parce que c'est une forêt qui continue à vivre.
Et oui, et puis on a toujours de la chasse dans la forêt de Souffle, on a différents publics comme ça, on a des ramasseurs de champignons, on a des randonneurs, on a de tout ce qu'on peut rêver, imaginer. Donc il faut arriver à faire vivre ces communautés entre elles, et c'est le travail du comité de gestion de la forêt. C'est là-dessus qu'on arrive effectivement à mettre les gens face à face. Je prendrai juste un exemple. La forêt est divisée en 5 zones. Quand les chasseurs chassent, ils indiquent la zone où ils chassent, et vous savez que vous pouvez vous balader dans les 4 autres tranquillement. Ça, c'est un accord qu'on a trouvé entre nous. Ça, c'est presque exemplaire au niveau national. Mais on a la même chose pour les ornithologues. Quand ils repèrent des oiseaux en train de nicher dans une falaise, et ils vont voir les gars du club de l'escalade, du club alpin français, qui eux-mêmes vont mettre les pancartes en disant « grimpez plus par là, il y a des oiseaux ». Bon, c'est des genres de synergies qui sont très agréables. Mais pour en revenir au départ, c'est vrai que pour un petit village comme Souffle, l'afflux de visiteurs pose des problèmes de voirie, de stationnement, etc., etc., avec une grande chance quand même, et ça il faut s'en féliciter. Il y a 20 ans, quand on a racheté la forêt, les parkings de la forêt, c'était plein de papiers, de machins, de bouteilles. C'était vraiment innommable, innommable. Aujourd'hui, la forêt est propre. Franchement, de temps en temps, on tombe sur quelque chose, mais les gens sont beaucoup plus respectueux de la nature. Ils ont beaucoup mieux compris. Quand on leur explique qu'il ne faut pas faire de feu, ben ils le comprennent. Quand on leur explique qu'il ne faut pas cueillir n'importe quelle plante, ils le comprennent. Et c'est toute une démarche, mais qui est visiblement en train de prendre. Alors, on se plaint de la surfréquentation, mais moi, en même temps, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent vers la nature, ben, je préfère ça que voir les gamins devant leur Game Boy et puis et les parents devant la télé. Hein. C'est quand même plus agréable d'avoir des randonneurs et des gens qui aiment la nature.
Bien sûr. Alors, sans se plaindre, c'est juste de gérer et d'en avoir conscience.
C'est pas toujours facile.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Balance quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Yannick Noah aux arbres citoyens sur Radio BLV 93.6. Bernard, pourquoi ce choix ?
Si tu veux, oui, le choix, c'est très important. Ça, je l'ai vraiment à cœur parce que chaque année, je vous l'ai dit tout à l'heure, on organise une journée du handicap. Où on reçoit des centres, des IME qui viennent de toute la Drôme et parfois même de l'Ardèche. Et souvent, ce sont des enfants. Et on a une tradition, c'est que chaque année, on apprend une chanson et on la chante tous ensemble. Chacun à sa façon, chacun selon ses moyens, mais on la chante tous ensemble. Et cette année, la chanson, c'est « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah. Voilà.
Et alors, vous la chantez où ?
On la chante dans la forêt de Sousse, c'est magnifique.
Formidable.
On est à peu près 150 personnes pour cette journée. Et cette année, le thème, ça va être les arbres, justement, puisqu'on va faire monter les enfants handicapés dans les cèdres de la grande allée des cèdres de la maison de site.
Oui.
Et on l'a déjà fait une fois, on sait que ça marche. On fait ça avec l'association Voyageurs des Cimes. Et même les enfants qui sont handicapés fauteuil, on arrive à les faire monter dans les arbres. Et quand ils sont en haut, on leur donne un appareil photo, ils font une photo de la forêt vue du ciel.
Ouais.
Quand ils sont en haut des arbres.
Superbe.
Magnifique.
Et ces cèdres splendides qui font rêver quand on est dessous, justement. Merci infiniment d'être venu jusque-là, Bernard.
Merci à vous de m'avoir reçu, c'était très agréable.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.